Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Faut-il forcément respecter l'enchaînement 5 km, 10 km, semi-marathon ou faire un semi-marathon avant un marathon? On en parle tout de suite dans cet épisode du Conseil. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamsters Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question de Pierre. En fait, j'ai picoré une question de Pierre qui m'a été posée, à laquelle j'ai répondu ce vendredi dans le Hamsters Running Club. Je lui ai fait une réponse un petit peu différente dans le Hamsters Running Club, parce que on est à l'intérieur du Hamsters Running Club, et j'ai décidé en fait de répondre un petit peu différemment là dans cet épisode du Conseil, tout simplement pour vous compléter un petit peu, puis vous apporter un peu ma vision sur une des problématiques que l'on rencontre dans la course à pied, qui est un petit peu le syndrome, un petit peu du bon élève qu'on peut avoir quand on est débutant, quand on se pose beaucoup de questions sur la préparation. Donc la question de Pierre, en fait, c'est qu'il réfléchit à son programme pour 2023 et 2024, ce qui est une très très bonne idée, parce que lui aussi, il aimerait faire le marathon pour tous des Jeux Olympiques, donc Paris 2024, et il est intéressé en même temps par faire du trail et du triathlon. Alors il se demande si dans son programme, il doit suivre l'ordre de faire un 5 km, un 10 km, un 21 km, un marathon, pour justement préparer ce marathon olympique, et même s'il ne doit pas faire un marathon genre en avril avant le marathon olympique au mois d'août, je crois que c'est au mois d'août. Bref, la question qui se pose pour lui, c'est comment être prêt pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques s'il a son dossard, comment faire pour être prêt. Et donc la logique souvent que l'on entend, c'est de se dire, eh ben il y a un ordre. Voilà, il y a un ordre, voilà. Alors, souvent, l'ordre qu'on entend, c'est on dit, on fait du 5, on fait du 10, du 21, du marathon, on monte petit à petit dans les distances, puis après, et ça continue comme ça, hein, c'est-à-dire que quand on a fait 5, 10, 21 marathon, et après, on dit, on va faire de l'ultra. Tout le monde n'est pas obligé de faire ça. En fait, cet ordre, il est logique, surtout pour un débutant, car le débutant, vous le savez, moi je l'ai su, je le sais, quand j'ai commencé en tant que débutant, au départ, on ne sait pas ce qu'on est capable de courir. Car le débutant, il se dit, moi je n'ai jamais couru, là je me lance, je vais d'abord commencer par faire un 5 km. Et c'est à peu près ce que tout le monde a fait. Alors moi, non, mais après, je suis passé par cette étape-là. En fait, j'ai fait le 5 après avoir fait le 13 et le 10. Ça, c'était un petit peu les choses comme ça qui sont arrivées. Mais c'est vrai que c'est logique. Et puis, j'ai eu des invités qui nous l'ont très bien expliqué, qui ont commencé par un 5 parce que c'est les rassure. Et ça leur fait peur au début, le 5. Et puis, une fois qu'ils ont fait un 5, on fait un 10. Parce que je suis capable de faire un 5, ça me rassure dans mes compétences. Oui, je deviens quelqu'un qui est capable de courir un 5 km. Donc, je peux passer à l'étape du 10. Et le 10, c'est souvent en plus un cap qui est important parce que le 10, on se dit on va le faire en une heure. Donc, c'est vraiment un cap symbolique de dire je vais faire un 10 km en une heure. On se dit qu'à ce moment-là, on est quand même un peu plus un coureur. Et puis, on se dit je vais continuer à être un peu plus un coureur en faisant un semi-marathon. Et puis, quand j'ai fait mon semi, je m'autorise à penser que j'ai fait un marathon. Bon, c'est là où les étapes, un petit peu, moi, je suis un petit peu tombé là-dedans aussi. C'est-à-dire que, avant de faire mon marathon, je me suis dit, il faut absolument que je passe par la case semi-marathon, ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble de courir un petit peu avec un dossard sur une distance qui fasse plus que 10 ou qui soit autre qu'un trail. C'est un escalier qui est rassurant. Et vraiment, je parle d'un escalier parce que on se dit qu'en fait, pour arriver au sommet de ce que l'on vise, qui est le marathon, il faut qu'on passe par ces étapes. La première marche du 5, la deuxième marche du 10, puis la marche du semi-marathon, puis la marche du marathon. C'est un peu comme des étapes pour passer au niveau supérieur. Un petit peu, j'allais dire, quand on est débutant, un petit peu comme les ceintures au judo. Je sais pas si on peut faire vraiment la comparaison, mais dire voilà, j'ai pris la première ceinture, puis après la deuxième, la troisième et autres. Il y a cet ordre-là. C'est un peu aussi le syndrome du bon élève. Et je reviens là-dessus. C'est-à-dire que on se dit, pour vraiment progresser, il faut d'abord que je fasse le 5 et puis ensuite le 10 et qu'il y a un chemin type pour préparer un marathon. Mais on n'est pas dans le judo, en fait. On n'est pas dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de passer par toutes les ceintures pour arriver à la ceinture noire. On n'est pas obligé de passer par toutes les ceintures, toutes les danes, etc. pour arriver à la ceinture noire. Si vous débutez là la course et que votre première course, vous avez envie que ça soit un trail, vous pouvez faire un trail. Même si c'est un trail qui fait 50 bornes ou 60 bornes, c'est votre préparation qui va vous permettre d'arriver à ce trail-là. Alors peut-être que ce sera pas si facile que ça, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Si votre première course, c'est un marathon, bah pourquoi pas, vous pouvez le faire. Ce qui va être important, c'est pas ce que vous avez fait comme course avant, c'est les étapes que vous franchissez dans votre préparation pour être prêt physiquement, mentalement à le faire. Et en fait, il n'y a pas vraiment de parcours, c'est ce que je voudrais dire en fait. Parce que Pierre, en plus, il a une caractéristique, c'est qu'il a déjà fait un ultra à pied et des distances de 100 km à vélo. Donc il sait pour lui qu'il est capable de courir 42 km. Alors en fait, le truc, c'est que il a eu un échec sur marathon, il y a eu une tentative avortée, il y a eu ensuite une blessure. Mais il sait qu'en fait, il est capable de courir des distances qui sont supérieures à 42 km. Donc la distance de 42 km, il sait qu'il est capable de la courir. Il sait aussi qu'il est capable de faire 100 km à vélo, qui le fait plusieurs fois régulièrement, donc le temps d'effort qu'il est capable de faire, de rouler, de faire du sport, 3-4 heures d'affilée, et bien plus dans son cas, il est capable de le faire. Donc, qu'est-ce qui reste en fait comme question? Qu'est-ce que cet enchaînement 5, 10, 21, marathon et autres, qu'est-ce que cet enchaînement pour arriver au marathon, finalement, va lui apporter? Et c'est ça la vraie question qui est importante. Parce qu'il y a la question de l'objectif, de l'allure, de la contrainte sur le corps, le plaisir qu'il va y prendre, la progression que ça lui amène. Mais la vraie question que je vais me poser, là, c'est de dire, finalement, comment le 5 ou le 10 km va aider à faire un semi-marathon ou un marathon? Quel objectif va avec? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, je dis à Pierre, mais je dis en fait à tout le monde, qu'est-ce que ça apporte de faire un 5, un 10, un semi-marathon pour préparer un marathon? Alors pour certains, je l'ai dit, ce sont des étapes. Quand on commence, on se dit « je suis pas très rassuré » et faire un 5 km me rassure. Et là, je suis entièrement d'accord avec ça. Et de dire « une fois que j'ai fait un 5, je double, je fais un 10 ». Alors, il y a certaines personnes d'ailleurs, je les avais citées un petit peu en disant « si tu veux vraiment te faire un petit peu une préparation et tu partais sur un 5 », inscris-toi sur un 10. Si tu te prépares sur un 10 et que tu veux vraiment muscler un peu ta préparation et être vraiment concentré sur ta préparation, pourquoi tu partirais pas plutôt sur un semi-marathon? Il y a des logiques qui vont comme ça. Bon, ça peut être, cet enchaînement peut être rassurant, de dire je fais mon 5, je fais mon 10, mais on pourrait très bien dire finalement le 5, ça me semble être quand même à ma portée. Je suis peut-être pas obligé de passer par le 5. Je peux peut-être aller directement au 10. Tout simplement parce que des gens qui n'ont jamais pris de dossard mais qui courent régulièrement depuis pas mal de temps, le 5, c'était pas une étape qu'ils ont besoin de valider parce qu'ils le font déjà à l'entraînement. Surtout qu'en plus, j'ai envie de dire que le 5 et le 10 sont des disciplines qui sont vraiment différentes du semi et du marathon et qui sont peut-être même pas faites pour vous, en fait, les uns et les autres. Ce sont pas les mêmes allures, c'est pas la même tension sur le cardio. Le 5 et le 10 sont vraiment des épreuves courtes de vitesse. C'est un peu, on pourrait mettre le cross aussi dans ces zones-là un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on part à fond et puis on reste à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce sont des épreuves qui sont dures. À un certain âge, d'ailleurs, je trouve, par exemple, que le 5, c'est sûr que le 5, ce qui est agréable, c'est que c'est une épreuve qui se fait relativement vite, je dis en temps. La préparation demande pas d'avoir des sorties longues, des sorties extrêmement longues, etc. On a beaucoup d'entraînement de vitesse, forcément, parce que on travaille la vitesse. Et je trouve, en plus, que ça a un intérêt vraiment... c'est sympa aussi sur le jeu, parce qu'il y a beaucoup de jeux quand on prépare un 5, quand on prépare un 10 aussi, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'accélération, on va chercher ce sentiment de vitesse, ce sentiment des fois de voler sur la piste, sur la route, quand on fait des accélérations, quand on va aller chercher vraiment de la vitesse, on peut même y introduire du sprint si on veut, on peut jouer vraiment avec la vitesse. Là où sur le semi et sur le marathon, on va surtout travailler l'endurance et on va surtout trouver l'allure dans laquelle on est suffisamment confortable pour courir le temps que l'on estime mettre sur le semi ou sur le marathon. Et à notre vitesse, si on court le marathon, par exemple, en 3h30, en 4h, ce sont vraiment des épreuves d'endurance longue et on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes niveaux de préparation, de course, de vitesse sur le cardio, sur le rythme qu'on va mettre, etc. par rapport à un 5 et à un 10. Même sur tout ce qui concernerait l'alimentation, l'hydratation, un 5, il n'y a pas besoin de se ravitailler, un 10, Bon, et si vous courez en une heure, il n'y a pas besoin de se ravitailler non plus. Peut-être un petit peu un coup de soif qui peut arriver, ça dépend un petit peu de la température. Ça, je veux bien. Mais quand on court autour d'une heure, on n'a pas besoin d'avoir un ravitaillement spécifique. On n'a pas besoin de partir avec des réserves dans un camelback. On n'a pas besoin de partir avec trois barres d'hygiène ou je ne sais pas quoi. Parce que l'alimentation avant suffit largement, vraiment largement pour faire ces épreuves-là. D'ailleurs, la preuve, c'est que les champions qui courent le semi-marathon autour de une heure, bon, on avait eu, par exemple, le cas de Félix Bourg, que j'ai eu dans Sport Nutrition, ils le font aussi sans ravitaillement. On a parlé aussi avec d'autres, hein, Florian Carvalho et autres, qui disaient, bah oui, c'est vrai que sur des distances qui sont jusqu'au semi, qui sont autour de l'heure, pour eux, à leur vitesse à laquelle ils courent, bah, finalement, ces histoires de ravitaillement, de quel eau je dois prendre, est-ce que je dois manger, est-ce qu'à quel moment je dois manger, bah, n'existent pas vraiment. Alors que, ça n'existera pas donc sur le 5 et sur le 10 pour nous, parce qu'on est dans des temps où on n'a pas besoin d'avoir ces ravitaillements. Par contre, quand on passe au semi, avec le temps de course que l'on va mettre, on a besoin de le faire, sur le marathon aussi. Et là, bah, c'est comme sur le trail aussi. Sur le trail aussi, on se pose ces questions. Alors, pas de la même manière, mais on arrive en fait un peu sur les mêmes questionnement de dire bah il faut que je cours suffisamment longtemps, faut que je trouve la bonne allure, quelle est mon allure de réserve pour pas être dans le rouge dès le départ, comment je vais arriver à enchaîner sur des entraînements qui vont être un peu plus longs, comment je vais arriver à me nourrir, comment je vais me nourrir pendant, quels sont les ravitaillements, comment je vais éviter un petit peu la lassitude aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont rentrer qu'on n'a pas vraiment, je trouve, dans le 5 et dans le 10. C'est pour ça que des fois je dis que le 5 n'est pas vraiment, le 5 et le 10 sont pas vraiment des épreuves qui permettent de préparer pour le semi ou le marathon, sont plutôt des épreuves qui peuvent valider le fait qu'on soit capable, on se sente capable, on se sente en confiance de courir le 5 ou le 10. D'ailleurs, j'en ai pour preuve, rappelez-vous, vous pouvez écouter l'épisode avec Diane, qui avait commencé par courir le 5, qui avait pour objectif ensuite de courir le 10 km, et ben elle a validé, vous pouvez voir sur son compte Instagram, pour voir l'évolution de ce qu'elle a fait, elle a validé, après avoir validé le 5, elle valide le 10, et donc vraiment, ça construit de la confiance en se disant « je sais que je suis capable de courir un 5, je sais que je suis capable de courir un 10 maintenant, donc je peux attaquer avec plus de confiance le fait de préparer un semi-marathon, de doubler la distance. » Et puis ensuite, quand elle aura validé peut-être le semi-marathon, elle se sentira en confiance pour aller valider le marathon, pour aller sur la distance du marathon. Et ça, ce parcours-là, je l'entends. Mais pour d'autres personnes, pour beaucoup d'autres personnes, en fait, eh ben, on n'a pas besoin de passer par ces étapes-là. Et on n'a pas de parcours type. J'ai envie de dire que je n'ai pas vu un seul livre, un seul ouvrage qui dit que pour bien préparer un marathon, il faut absolument faire un 5 avant, un 10 et puis un semi et un marathon. Oui, le semi et le marathon sont liés entre eux parce que dans les préparations, on place généralement un semi au milieu de la préparation ou un mois avant le marathon, on place là un semi qui va permettre de tester, en fait. Souvent, ça permet de tester, justement, de savoir quel matériel qu'on va porter. Est-ce que j'amène, si je dois amener une petite gourde, dans quoi je vais la mettre? Si je dois manger en courant, qu'est-ce que je vais prendre? À partir d'un temps d'effort, bah, à quel moment je sens que j'ai besoin de manger, de boire, d'avoir un petit peu ravitaillement? Qu'est-ce que je prends sur un ravitaillement s'il est présent? Oui, là, on a ça. Et puis, en général, on le court aussi à la vitesse marathon. On va pas le courir dans le but de battre son record personnel sur le semi-marathon, comme si on préparait ça en disant derrière, après, il n'y a pas d'autre course, il n'y a rien à préparer. Quand c'est placé dans une préparation pour un marathon, un semi-marathon, on se dit, bah, deux jours après, il faut que je recours, faut que je renchaîne, etc. Donc, on va aussi vraiment le courir dans cette optique-là. C'est pas tout à fait la même optique que si le semi-marathon était vraiment l'objectif. Donc, il y a tout un tas de paramètres, en fait, à voir, parce que si tu cours un semi-marathon 6 mois avant le marathon, bon, tu vas le considérer totalement différent que si tu cours un semi-marathon dans le moment de la préparation. Donc, il n'y a pas de parcours type, en fait. Il n'y a pas de parcours type. Et ça sert à rien de se dire, ce qui n'est pas forcément le cas de Pierre, mais ce qui est le cas de certains d'entre nous, de certains d'entre vous, qui a été mon cas à moi à une époque, de se dire, il y a un parcours type. Oui, je suis un bon élève. Voilà, dans les manuels potentiels que j'imagine, etc., dans le parcours type, dans le cheminement, il y aurait cette étape-là de faire le 5, le 10, le semi, le marathon. Et moi, je me rends compte que j'étais un petit peu dans cette optique-là. Et puis, en fait, quand je regarde mon parcours, je viens de vous le dire, mon premier dossard, quand j'ai repris la course, c'était un 13 km en trail qui n'a rien à voir avec un 10 km sur route, qui était l'épreuve suivante, je crois, ou peut-être qu'il y a eu un truc un petit peu au milieu. Mais après, j'ai fait un trail de 36 bornes, bon, qui était un peu plus long que prévu parce qu'on s'est perdu sur le chemin. J'ai fait du trail de 13 de 26. J'ai fait un semi-marathon et puis ensuite j'ai fait le marathon. Donc, voyez, ce parcours-là, comme ça, un petit peu dans tous les sens, un petit peu mélangé, en fait, ce qu'il faut juste pas oublier, c'est pourquoi on veut courir chaque épreuve. En fait, le parcours, il est valable. Il peut être valable parce qu'on peut se dire que le 5 km va nous permettre de travailler des capacités de vitesse et se dire que pendant quelques temps, on va se concentrer sur du 5 km tout simplement parce qu'on veut faire de la VMA, progresser en VMA et progresser sur sa vitesse, travailler sa pointe de vitesse. C'est pas ce qu'on travaille le plus sur la préparation marathon, mais on se dit que pour courir un marathon plus vite et dans de meilleures conditions, on veut gagner en vitesse. Et donc là, oui, on va faire du 5 km, on va faire du cross, on va faire du 10 km. Là, on va vraiment travailler la vitesse. Et là, c'est entièrement valable comme stratégie. Mais c'est vraiment une stratégie dans laquelle on se dit, j'ai en fait une stratégie avec des objectifs, avec un plan vraiment précis pour dire, là, j'ai envie de gagner du temps sur mon marathon et je pense que j'ai besoin de gagner en vitesse, en VMA, en vitesse pure. Et donc, je vais plutôt faire d'abord du 5, là où il y aura beaucoup plus d'entraînements qui sont axés sur de la vitesse. Et ensuite, quand j'aurai fait ces courses, quelques courses de 5, de 10, où j'aurai vu que j'ai gagné en vitesse, quand je vais monter ensuite sur des épreuves qui sont plus longues, ben, par rapport à mon pourcentage de VMA, par rapport à mon pourcentage de fréquence cardiaque, ce que j'aurais gagné en vitesse va me permettre de courir mon marathon potentiellement plus vite. Si ensuite, l'entraînement marathon, l'entraînement semi, me permet de travailler mon économie de course, mon endurance, être capable de tenir la vitesse que j'ai envie de tenir sur une distance plus longue. Et là, on est dans une préparation qui est différente, puisqu'on prépare pas tout à fait la même chose, on prépare vraiment sur le fait d'arriver à tenir la distance. Donc, je dis que la stratégie de faire 5, 10, semi et marathon, elle est valable, mais elle peut très bien ne pas être valable. Ça dépend vraiment de ce que on va chercher. Donc, le conseil que j'ai donné à Pierre, c'est d'avant tout de regarder sa progression et ce qui lui amène du plaisir et aussi comment les différentes disciplines qu'il pratique le font progresser. Pierre, quand il parle de marathon, oui, mais quand il parle aussi d'envie de trail, d'envie de triathlon, on se dit qu'il y a moyen aussi de faire du croisé à un moment donné. Pour Pierre, le meilleur moyen de préparer un marathon, ça peut être de faire du vélo, de la natation, donc vraiment dans l'optique triathlon toute l'année, et seulement se focaliser sur la course, dans la prépa vraiment à proprement dit, de rentrer dans la course marathon, les allures marathon, et vraiment que dans la période de préparation, mais que tout le reste de l'année, plutôt être dans, je me nourris des différentes pratiques, c'est-à-dire que je préfère faire 4 heures de vélo que d'aller courir 2 heures le week-end, je préfère aller nager en semaine plutôt que de courir dans le noir pendant l'hiver, ça peut être ça, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Et ce qui va gagner en endurance, ce qui va gagner en respiration, ce qui va gagner en gainage, ce qui va gagner en musculation, ce qui va gagner en mental d'aller dans certaines séances, par exemple de vélo, passer 4 heures sur un vélo ou plus pour faire 100-150 km de vélo, va lui être profitable sur la partie course au moment où il va rentrer dans la préparation. Et c'est là l'enchaînement qu'il faut le regarder. Mais pour d'autres, ça va être de courir régulièrement. Pour d'autres, c'est de passer par les étapes qui rassurent. La bonne posture pour Pierre, c'est déjà d'avoir réfléchi à sa progression pour arriver dans les 2 ans qui viennent à se dire « je veux être capable de courir le marathon olympique pour tous hein, » qui est organisé pendant les Jeux Olympiques. Alors bien sûr, tous, on n'est pas certains d'y être parce qu'il y a ces histoires de points. Moi, j'ai mes points. Certains ont déjà les dossards, ils ont décroché par différents challenges, etc. Bon, voilà. Il y en a qui sont sûrs d'y être, il y en a qui sont pas sûrs d'y être, en tout cas sur le plan du fait « est-ce que j'ai un dossard ou pas ?» Mais après, même si on a le dossard, il faut y être. Et le meilleur moyen d'y être, c'est de durer, d'entretenir le corps, le mental et la motivation. Et c'est pas de le préparer juste dans les 2-3 mois qui vont précéder. Non, c'est que là, si, comme Pierre qui court, qui fait du vélo, de la natation, qui fait du trail, c'est d'entretenir le corps, d'entretenir le mental, d'entretenir la motivation pour passer la fin de l'année 2022, pour faire l'année 2023 et pour passer la grande partie de l'année 2024 qui va l'amener à cette préparation-là. Et en fait, on est là-dedans. Tous, le meilleur moyen de courir le marathon de 2024, si on a le dossard, c'est de courir, de continuer à courir, de continuer à bouger, sans se blesser, sans perdre la motivation, tout au long. Parce que, je le redis, je l'ai vécu, moi, je sais à quel point la blessure ralentit tout. Il y aura bientôt un épisode de Sport Nutrition dans lequel on va en parler justement de ce sujet-là Et vraiment, tout le monde, tous ceux qui sont blessés, savent à quel point ça nous ralentit, à quel point ça démoralise, à quel point c'est compliqué. Ça peut même être compliqué de repartir. Hein. Alors là, on en parlera avec un sportif professionnel. Mais quand on est amateur, il y a un moment donné, on va se poser la question de se dire, mais ça, c'est tellement dur de repartir. Il faut retrouver la motivation. Donc, le meilleur moyen, en fait, c'est vraiment d'entretenir sa motivation, faire des choses qui nous font plaisir pour bouger, pour courir, pour entretenir la forme. Et à un moment, on va se dire, bah, ce qui va faire Pierre dans son cas de sa préparation pour faire du triathlon, pour faire du trail sur 2022, sur 2023, bah, c'est pas perdu pour 2024. Ça va être une base pour travailler ensuite 2024. Et bien sûr, dedans, il y a la question de l'objectif. C'est de se dire, si je dois le finir, quel que soit le temps, c'est un objectif. Si c'est le finir avec un temps particulier et qu'il faut travailler la vitesse, eh ben, je dois peut-être passer par du 5, par du cross, par du 10. Si mon objectif, c'est de gagner du temps par rapport à telle ou telle chose, je dois peut-être le faire de telle manière. Si mon objectif, c'est de courir avec le sourire, quel que soit le temps et en travaillant vraiment que sur l'endurance, ben, on peut se dire qu'une fois que tu as fait un trail de 80 bornes ou de 100 bornes, tu peux très facilement passer sur un marathon sans une grosse préparation parce que, bon, tu sais que tu tiendras la distance. Donc voilà, c'est un petit peu la vision que j'ai moi de ce type de questions qui me sont souvent posées, hein, de ces enchaînements, de comment il faut enchaîner. Je pense en fait que vraiment il faut se dire que la priorité, c'est de continuer à courir, bouger, se faire plaisir, entretenir, je le répète, le corps, le cœur, le mental, la motivation, ne pas se blesser, gérer ces phases où on se sent mieux, ces phases où on se sent moins bien, aller faire des courses qui nous font plaisir, aller poursuivre des objectifs qui nous motivent, hein, qui nous motivent vraiment, qui sont vraiment là motivants, mais qui nous permettent aussi de progresser, voir comment on peut continuer à progresser, malgré le fait que ça peut paraître loin quand même, ce marathon. Et dans deux ans, ça peut paraître loin. Alors les sportifs de très haut niveau qui, eux, visent les médailles, savent qu'en fait, ils sont déjà dedans depuis un bon moment parce qu'ils sont focalisés dessus. Nous, quand on est sportif amateur, à notre niveau, on est moins focalisé dessus parce qu'on a plein d'objectifs plutôt à court terme, on va se focaliser dessus. On commence à penser, à se dire, bon, l'an prochain, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est une bonne construction, en fait. C'est une bonne construction. Et moi, je ne peux que vous encourager là-dessus parce que j'ai fait une formation justement sur comment on se fixe des bons objectifs en pensant sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme, et comment sur le court terme on traduit ça avec les moyens que l'on met, vraiment les moyens que l'on met. Et c'est ça qu'il faut regarder un petit peu en priorité, c'est comment on peut organiser. Mais la bout de réponse que je voulais vraiment vous apporter, c'est que ça ne passe pas par un parcours type. Il n'y a pas de parcours à suivre en disant tiens, si je fais ça, je suis sûr de réussir. Non, ça n'existe pas. Si je fais ça, j'ai un bon point. Ça, c'était l'école. Ça, c'était le formatage de l'école, etc. Il faut valider telle classe. Il faut passer par telle étape, par le parcours, par ça. C'est aussi le fonctionnement de certains des arts martiaux avec les ceintures. C'est peut-être le fonctionnement aussi de ski où vous gagnez d'abord un flocon avant de gagner des oursons ou je ne sais quand, je sais plus dans quel ordre c'est. Et encore, après, au bout d'un certain niveau, vous savez que vous pouvez passer la flèche sans avoir fait le je sais plus quoi, etc. Enfin bref, je me rappelle plus ce que c'était. À force de tous les avoir passés, mais dans n'importe quel sens, je me rappelle plus ce que c'était. Oui, j'étais fléchette, j'étais flèche d'or et tout. À mon époque, quand je faisais du ski, et vraiment, mais il n'y a pas ce parcours type en fait en course. C'est-à-dire que si votre première course, vous avez envie que ce soit un marathon, ça peut être un marathon. Si votre première course, vous avez envie que ce soit un 5 km, ça peut être un 5. Si votre première course, vous avez envie que ce soit un trail, ça peut être un trail. La vraie question qui va se poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire comme effort au quotidien? Qu'est-ce que vous allez faire comme effort là, maintenant, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, pour vous rapprocher de cet objectif-là et pouvoir vivre cet objectif-là pleinement, c'est-à-dire en étant en pleine capacité physique, mentale, pour arriver à le faire. Et c'est la seule question qui se pose. Et ça passe par le questionnement de pourquoi vous le faites, comment vous le faites, comment vous vous motivez, à quel point ça vous motive et à quel point ça vous amène à prendre des habitudes qui vous permettent de le faire. Le reste, savoir s'il faut enchaîner dans quel ordre, comment on le fait, etc., c'est vous qui allez pouvoir le décider. Il n'y a pas de parcours type. Et vous ne serez pas un meilleur élève, un meilleur coureur si vous faites 5, 10 semi-marathons que si vous faites un jour un semi, puis un autre jour un 5 et puis un autre jour un marathon. Mais que vous y trouvez en fait votre parcours, c'est vous qui faites votre parcours. Et c'est tout ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Bon voilà, bah c'est fini. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Hamsters Running Club. Je le répète, hein, tous les vendredis matin, je fais une vidéo qui dure entre 1h, 1h10, dans laquelle je réponds à toutes vos questions. Donc il y a des questions très variées sur les objectifs, sur la préparation, sur ce que je fais aussi, sur un petit peu les coulisses, mais aussi sur comment vous pouvez faire les choses, comment vous pouvez préparer. Je réponds à tout un tas de questions. On aborde vraiment de nombreux sujets. Vraiment, hein, c'est très complet. Je prends le temps de répondre à toutes les questions. Et puis sachez aussi que si vous voulez aller plus loin, je propose des accompagnements individuels, une ou plusieurs séances avec des réponses, un programme sur mesure. Hein. On prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions, de voir comment vous allez pouvoir progresser. On ne se concentre pas spécifiquement sur un plan d'entraînement, hein. Je ne suis pas un entraîneur. On se concentre vraiment sur l'ensemble, démarche holistique de l'ensemble de comment on va organiser le temps, comment vous pouvez gérer votre hygiène de vie, comment vous pouvez gérer le sommeil, comment vous pouvez vous organiser, comment vous pouvez travailler le mental. Je suis certifié en préparation mentale justement pour aborder certaines des questions. Quels sont les freins aussi que vous pouvez avoir par moment? Comment on peut les lever? Voilà, on aborde tout ça et puis vous repartez avec un plan précis, avec aussi du soutien par messagerie dans le mois qui suit pour vous accompagner, pour vous amener jusqu'à votre objectif pour que vous deveniez champion, champion du monde de votre monde. Et je dois le dire, hein, ça n'applique pas qu'à la course à pied. Non, vous pouvez le faire aussi si vous êtes dans d'autres sports. On peut aussi étudier ça pour d'autres sports parce que les stratégies fonctionnent et ça fonctionne d'ailleurs aussi pour autre chose que la stratégie parce que la préparation mentale, je l'applique aussi sur des domaines tels que la création de contenu, l'entrepreneuriat, le podcasting et on pourrait l'appliquer à tous nos domaines dans lesquels on a un jour une échéance qui nous amène à devenir champion et championne du monde de notre monde. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les sportifs.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.